Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes.
Bonjour à tous. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je voudrais vous rassurer que l'auditeur qui avait une crise cardiaque va mieux. Il est à l'hôpital, il va mieux. Voilà. Bravo aux services du Collège qui ont vraiment sauvé cette personne. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de physique des étoiles selon leur masse. Comme vous voyez, on va parler pas mal de ce... Alors, est-ce que ça marche ? Oups ! Je crois que j'ai mal... j'ai tout éteint. C'était ça qu'il fallait...
Oui, attends. Non, c'est au bout.
D'accord.
Il ne faut pas appuyer ici.
D'accord. Voilà. Ok. Donc, nous allons parler aujourd'hui de... des différents types d'étoiles, leur classification. Comme vous voyez, on va détailler un petit peu ce diagramme, qui est un diagramme de Hertzsprung-Russell, enfin qu'on appelle HR, des initiales, et qui donne la couleur magnitude, ou bien la température des étoiles, la luminosité, si vous voulez. On va en parler tout au long de la séance. Comment on classifie les étoiles sur ce diagramme de HR, Hertzsprung-Russell. Et ainsi, on va pouvoir savoir qu'il y a une séquence principale, des naines branches, des régentes rouges, etc. On va s'intéresser au processus physique à l'intérieur des étoiles, du Soleil par exemple. Vous voyez ici une petite animation en ultraviolet du Soleil qui tourne, alors évidemment c'est très rapide, mais il tourne en 27 jours sur lui-même. Et ce que vous voyez sont du vent solaire, donc des éjections qui sont assez proéminentes en UV, et les différents modèles. Et puis on va s'intéresser à l'évolution, la vie et mort des étoiles, qui passe 90% du temps sur la séquence principale, mais qui ensuite se retrouve un tout petit peu dans les deux côtés. Donc déjà, un petit peu d'histoire. Depuis, on ne connaît l'origine de l'énergie des étoiles que depuis 1940. Alors, j'ai un petit peu donné quelques étapes, et finalement, sur les raies spectrales, une des personnalités qui a bien marqué ce domaine, c'était Cecilia Penn, Capuchin. C'est une Anglaise qui était à Cambridge au départ, qui est allée ensuite à Cambridge aux États-Unis, à Harvard, et qui a fait sa thèse en 1925. Et elle a étudié les raies spectrales. On avait des raies qui étaient de l'hydrogène, de l'hélium, du calcium, de tas d'éléments. Et elle a montré que toutes ces raies étaient dues à une température et que la principale composition du Soleil, c'était l'hydrogène. Ça, c'était déjà un pas, parce que quand on voit la composition de la Terre, il y a du fer, du carbone, de l'oxygène, etc. Et on pouvait penser qu'il pouvait y avoir les mêmes genres d'abondance. En fait, non, la composition essentiellement de l'hydrogène. Ensuite, dans les années 20, il y avait William Draper Harkins, Perrin, Eddington, qui est ici, qui avait une intuition que peut-être l'énergie des étoiles venait de la fusion de l'hydrogène en hélium. On gagne de l'énergie car l'hélium a une énergie de liaison plus faible, donc on peut gagner. Mais il y avait quand même certains l'avaient calculé, l'énergie qui pouvait être gagnée, peut-être 0,7% de MC2. Einstein, en 1905, avait dit que l'énergie E était égale à MC2, la formule que tout le monde connaît. Et donc, on pouvait gagner de la masse, donc de l'énergie. Mais il y avait une grande barrière qui était lorsqu'on a des ions, puisque tout le Soleil c'est de l'hydrogène et c'est des ions en fait, H, le proton et puis l'électron. Et donc lorsque deux protons arrivent ensemble, ils se repoussent. Donc il y a une barrière coulombienne, une barrière d'énergie répulsive ici. Donc il a fallu attendre 1927 où Friedrich Wundt a découvert l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est un effet de mécanique quantique qui est relié à l'incertitude d'Heisenberg et qui est relié au fait qu'en un très très petit temps, on peut avoir beaucoup d'énergie et passer à travers une barrière de potentiel qui, en physique classique, ne pourrait pas être franchie. Donc cet effet tunnel a été le même qui a permis à Gamow, que vous voyez ici, d'interpréter la radioactivité alpha. Alpha, c'est quoi? C'est une particule d'hélium à 4 nucléons, un atome d'hélium, c'est une particule alpha. Et on avait des noyaux qui se désintégraient en émettant des atomes d'hélium. Et donc, il y avait ce problème de barrière. Et c'est grâce à cet effet tunnel qu'on peut le résoudre. Donc là, ça commençait à être facile, à concevoir. L'équation de Schrödinger permettait de calculer la probabilité. Et dans ces années-là, comme vous le savez, il y a eu une compétition, le projet Manhattan, etc., pour essayer de comprendre la bombe atomique. Et là, il y avait énormément de moyens qui ont été mis. Donc, on a fait pas mal de progrès à cette époque-là. Alors, voici un petit peu ce qu'on peut représenter comme énergie de liaison en fonction du nombre de nucléons dans le noyau. Vous voyez les éléments légers ici, hydrogène, hélium. Et puis, on gagne de l'énergie en fusionnant jusqu'au point de rebroussement ici, qui est le fer. Et puis ensuite, pour former du fer jusque-là, en fait, c'est une réaction qui va être endothermique. On va avoir besoin d'énergie. On va donner de l'énergie. Ici, on en gagne, mais ici, on va en avoir. Alors, comme vous le savez, sur Terre, dans les centrales nucléaires, on va justement fissionner l'uranium pour gagner de l'énergie. Donc on va dans ce sens. Ici, il faut donner de l'énergie pour former jusque-là. Alors là, il y a eu deux grands articles qui ont montré comment tous ces éléments se formaient. Il y en a un qui était dû à Gamow et son étudiant Alpher. Alors Gamow, il faut savoir que sa personnalité était très enjouée, il y avait beaucoup d'humour. Il avait rajouté Bethe qui n'avait rien fait à ce papier parce que ça faisait alpha, bêta, gamma. Et puis, dans ce papier en 1948, qui était assez court, hein, une page, mais quand même qui contenait tout, ils l'ont publié un 1er avril et il n'a pas eu beaucoup de suivi, mais c'était, il montrait dans ce papier comment tous les éléments légers, deutérium, hélium et lithium, etc., se forment dans le Big Bang, dans les premières minutes de l'univers, dans le Big Bang, puisque l'univers est tellement chaud que toutes les réactions de fusion, nucléaires de fusion, se propagent. Donc déjà, les éléments légers se forment dans le Big Bang. Puis il y a eu un autre papier beaucoup plus lourd, cette fois-ci 108 pages, et qui est très connu et très cité, de Burbidge, mari et femme, Fowler et Hall, qui synthétisait tous les éléments jusque-là et détaillait un petit peu toutes les réactions nucléaires. Donc aujourd'hui, voici ce qu'on sait de la formation des noyaux. Vous voyez que dans le Big Bang, les bleus, donc les éléments légers se forment dans le Big Bang. Alors certains éléments ont plusieurs couleurs parce qu'on peut les former de diverses façons. Une partie est formée pour le lithium dans le Big Bang en bleu. Et puis, les éléments légers comme beryllium, bore, en fait, ils sont détruits, ils passent dans les étoiles, mais ils sont détruits ensuite pour former des éléments plus lourds. Donc on pense que l'essentiel est formé après coup, lorsque des éléments plus lourds comme carbone, azote et oxygène sont bombardés de rayons cosmiques et qui cassent les noyaux et on les forme B et B par cette spallation en quelque sorte. Donc c'est un petit peu à part, donc c'est en rose ici. Et puis les verts qui sont assez nombreux, ce sont les éléments qui sont rejetés par les étoiles de faible masse, inférieure à 8 masses solaires, comme le Soleil, en fin de vie. Il va y avoir pas mal de vents solaires, des éjections d'enveloppes. Et donc, on va montrer au cours de cet exposé qu'on peut former un petit peu tous ces éléments en vert. Et puis, les explosions. Alors, les explosions de supernova, il y en a de deux sortes. L'explosion d'une étoile massive, on va aussi le présenter dans cet exposé. En fin de vie d'une étoile supérieure à 8 masses solaires, on va avoir une explosion de supernovae de type 2, comme le crabe, par exemple. Et donc, tous les éléments en jaune ici sont formés dans cette supernovae de type 2. Et enfin, supernovae de type 1, c'est un petit peu spécial, c'est quelque chose qui arrive plus tard, qui sont des naines blanches, c'est-à-dire des étoiles de faible masse, comme le Soleil, et qui, lorsqu'elles sont une binaire, l'enveloppe du compagnon va tomber sur la naine blanche, et va faire une explosion, et cette fois-ci, on va former les éléments en gris. Et vous voyez que les éléments en violet sont vraiment très abondant ici. Pourquoi ? Parce que on a vu qu'il fallait donner de l'énergie. C'est pas bombardement de neutrons que l'on va former ces éléments. Les neutrons vont être très énergiques et vont pouvoir créer. On s'est aperçu d'ailleurs très récemment lorsqu'on a détecté une fusion de deux étoiles à neutrons en 2017. On a détecté les ondes gravitationnelles qui provenaient de cette fusion de deux étoiles à neutrons. Et dans le même temps, on a détecté un sursaut gamma de l'émission de toute la matière ordinaire. Et on a vu qu'en effet, on formait tous ces éléments. Alors, il y a des éléments qui sont, disons, connus et familiers, hein, l'argent, l'iode, le xénon, vous avez aussi l'or, le platine, et tout ce qu'on appelle l'antanine, qui est au-delà de l'antane. Donc tout ça s'est formé dans la fusion des étoiles à neutrons. Alors que se passe-t-il dans le Soleil et les étoiles toutes les étoiles sur la séquence principale, pour fusionner H et former l'hélium. Eh bien, on a une première réaction, donc, celle qu'on appelle PP, proton-proton, qui, justement, prend énormément de temps. On a dit qu'il y avait un effet tunnel pour passer la barrière coulombienne de répulsion, et ça dure un milliard d'années. Donc, c'est pour ça que ces étoiles, comme le Soleil, durent 10 milliards d'années, en fait. Si on avait d'autres réactions plus courtes, et on va voir que pour les étoiles plus massives, on a des réactions plus courtes, à ce moment-là, on a des étoiles qui durent que 10 millions d'années, parce que tout se passe très vite. Ici, on a un combustible qui se brûle lentement et qui permet à des étoiles comme le Soleil de durer 10 milliards d'années. Donc ici, on a les deux voies ici sont symétriques, hein, pour montrer qu'on va former d'abord du deutérium ici. En bleu, ce sont les neutrons, rouge les protons. Et puis un autre proton ici va former He3, hein, un neutron, deux protons. Et puis finalement, les deux vont fusionner et redonner des protons et former l'hélium. Donc voici la chaîne PP, la principale. Et puis il y en a d'autres, mais qui demandent plus de température et qui sont ce qu'on appelle 6CNO, parce que le CNO, le carbone, l'azote et l'oxygène sont des catalyseurs. Un catalyseur, c'est un élément qui est là pour favoriser une réaction, mais qui se retrouve identique à la fin de la réaction. Donc on a fait juste que former de H, on va former l'hélium, mais le CNO aide. Et donc ici, vous voyez qu'on part du carbone 12, qui a 6 protons et 6 neutrons, là le neutron est en gris, et puis avec un H de plus, on va avoir l'azote 13, et puis on va rejeter une charge positive, donc on va avoir C13, puis encore un proton, on va avoir N, l'azote 14, puis ensuite l'oxygène avec un autre proton, puis on rejette une charge positive, on a encore N15, et vous voyez qu'avec un autre proton, cette fois-ci, on va avoir l'hélium, et puis on aurait eu 16 normalement, et on va tomber à 12. Donc on repart ensuite, après ce cycle, avec le même carbone 12. Donc vraiment, c'est un catalyseur, il est identique au départ et à l'arrivée, mais ça a permis de passer de H à H4 plus facilement, au lieu d'avoir P qui se repousse. Ça, c'est un catalyseur. Alors on voit que l'avantage, c'est celui-là, quand on a une température au centre du Soleil. Alors au bord du Soleil, c'est plutôt 5000, 6000, la surface du Soleil, mais au centre, on a plutôt des millions de degrés, 6 ou 10 millions de degrés ici. Et vous voyez que l'efficacité de la réaction nucléaire, elle dépend de la température au cœur de l'étoile. Donc si cette température est trop faible, on n'aura que la réaction PP, donc qui est très lente. Et puis on va avoir cette réaction CNO, on voit que le Soleil en a un petit peu des deux. Et vous voyez que c'est très très efficace, beaucoup plus. Ici c'est une échelle en log, donc on a des ordres de grandeur plus efficaces. Donc si on a une étoile massive qui a une température plus forte, tout d'un coup on voit très bien pourquoi elle brûle son combustible beaucoup plus rapidement et elle peut mourir en 10 millions d'années alors qu'elle a beaucoup plus de masse que le Soleil par exemple. Et puis on verra qu'on a aussi le triple alpha qui elle encore demande une température bien plus forte. Donc, on a une classification des étoiles selon les raies que l'on a vues dans ces étoiles. La spectroscopie a fait pas mal de progrès, d'abord avec Fraunhofer, qui avait vu des raies dans le spectre. Lorsqu'on fait une dispersion de la lumière qui vient du Soleil, on a une dispersion du fond du Soleil, qui est un rayonnement continu, presque de corps noir, et qui va du bleu vers le rouge, ici. Et puis, vous voyez les raies d'absorption des divers éléments en noir. Et on a essayé de les classifier en fonction de la présence de ces raies. Jules Janssen avait vu, Janssen était un des directeurs de l'Observatoire de Paris, c'est le premier qui a vu l'hélium, une raie d'hélium dans la surface du Soleil. Et vous avez aussi d'autres qui ont classifié tout cela. On a commencé par 1, 2, 3, 4. En fait, on s'aperçoit la classification aujourd'hui. On avait commencé par classifier A, B, C, etc., mais ce n'était pas du tout la bonne. Et en fait, on est tombé avec une classification O, B, A, F, G, K, M. Les étudiants s'en souviennent en disant O, B, A fine girl, kiss me. Enfin, tous les Anglais, en tout cas. Et on va voir que le Soleil est ici, hein, en jaune, une étoile G. Et cette classification, en fait, est beaucoup due au travail des femmes, en fait. Pourquoi le travail des femmes? Je voudrais les rendre hommage. Ici, au début du siècle, Les femmes commençaient à entrer dans l'université, à avoir des diplômes, mais n'avaient pas de job. Elles avaient été employées par Pickering à Harvard, et pour avoir un travail un peu fastidieux qui était de regarder les plaques des étoiles qui étaient prises chaque nuit dans les télescopes et essayer de classifier les étoiles, de regarder selon les raies. Et elles ont classifié 225 000 étoiles. Et certaines sont devenues célèbres, comme par exemple Yamina Fleming, que vous voyez ici, qui a trouvé les types A et B, avec les raies de l'hydrogène, et Annie Jump-Cannon, que vous voyez ici, qui est à l'origine de la classification qu'on appelle classification de Harvard, OBA-FGKM, et qui a été avalisée par l'Union Astronomique Internationale, l'IAU, en 1910. Et il y a de même quelqu'un de très célèbre aussi, Henrietta Leavitt, dont la responsabilité est de trouver les étoiles variables. Elle avait identifié 1777 étoiles variables. Alors variables, ça variait au cours de plusieurs nuits, quelques jours, à un mois ou deux. Elle avait identifié et surtout elle avait trouvé qu'il y avait une relation entre la période, hein, mettons 30 jours, 34 jours, etc., et la luminosité intrinsèque de l'étoile. Donc cette relation période-luminosité est fondamentale pour trouver les distances. On a la luminosité apparente de l'étoile et grâce à la période, on a la luminosité intrinsèque et donc on a la distance. Et donc grâce à cela, on a pu démarrer toute la cosmologie dans les années 1920-1925. Par exemple, Edwin Hubble a pu montrer qu'il y avait une expansion de l'univers. Donc je reviens à mes étoiles. Ici, on va parler beaucoup de ce diagramme Hertzsprung-Russell, qui a été d'abord trouvé par Hertzsprung et ensuite par Russell, qu'on appelle HR parce que c'est quand même assez difficile et long. Donc HR, on va dire. Et puis, vous voyez que les premiers, ça c'est historique, les premiers en 1914, étaient de ce genre. Vous voyez les types de les étoiles. Donc les étoiles chaudes sont ici, OB c'est les plus chaudes, et ici les plus froides. Donc la température va dans ce sens, vers la gauche. Et puis la luminosité qui monte vers le haut. Donc on essaie de trouver une relation qui va nous expliquer l'évolution des étoiles. Alors c'est cette relation qu'on a aujourd'hui ici, beaucoup mieux représentée. Donc vous voyez ici les spectres, la température qui va de 2500 ici à 40 000 degrés, c'est la température de surface de l'étoile. Et puis en ordonnée, vous avez la luminosité qui va de 10-5 à 10 puissance 6 luminosité solaire. Vous voyez un petit peu qu'il y a une grande gamme, il y a 11 ordres de grandeur de luminosité des étoiles d'en bas en haut. Et puis on voit que toutes les étoiles se regroupent sur la séquence principale car 90% de leur vie est sur la séquence principale. Cette séquence, ce n'est pas une évolution, hein. Chaque étoile se trouve en un point. Il s'agit d'une séquence de masse. Donc les plus massives sont en haut. Le Soleil est ici, les moins massives sont en bas, donc elles sont plus rouges parce que la température est plus faible, donc c'est la couleur de la température. Et puis on voit que ici vous avez les petits rayons, les naines, et ici les géantes. On va voir comment ça s'explique. Alors déjà, la dernière présentation, on avait montré la formation des étoiles, donc comment on a des proto-étoiles qui ne sont pas sur le diagramme, mais on peut quand même les représenter. Elles arrivent ici, les proto-étoiles, lorsqu'elles se forment. Donc on a un nuage en contraction et on avait vu que si on se représente un petit peu la formation d'une étoile et on observe ce spectre-là, c'est-à-dire qu'ici vous avez la longueur d'onde, les longueurs d'onde faibles, donc le nuage va rayonner en infrarouge, en millimétrique même comme longueur d'onde, donc vous avez ce spectre très rouge et puis peu à peu le gaz va s'effondrer, être de plus en plus chaud et de plus en plus dense et les réactions nucléaires vont se déclenché, donc on va avoir un corps noir ici qu'on voit en jaune, et donc c'est une étoile de classe 1 qui a encore beaucoup de poussière et de gaz autour, donc qui émet à la fois en infrarouge et puis en optique, et puis peu à peu le disque protoplanétaire où vont se former un peu les planètes va être soufflé par la pression de radiation de l'étoile lorsqu'elle sera assez forte, et vous voyez que l'émission en rouge de la poussière disparaît peu à peu et on a une étoile comme aujourd'hui le Soleil avec peut-être un tout petit peu de poussière mais qui sont des débris cette fois-ci, c'est-à-dire les débris des planètes qui sont formées et non pas la poussière initiale qui est toute partie. Donc si on reprend cette classification qu'on avait développée la dernière fois, ici on a une certaine température qui est très froide. Le nuage se condense et il se réchauffe, mais peu à peu, on va arriver sur la séquence principale lorsque on sera en classe 2, puis classe 3 ici, donc l'étoile va arriver ici. Et ça se passe assez rapidement, l'étoile se concentre, donc elle rayonne moins, même si la température monte, parce que la luminosité est proportionnelle à la surface, est beaucoup plus petite, donc on a un chemin de ce type-là. Alors justement, l'arrivée de ces étoiles va être, selon leur masse, un petit peu différente et vont prendre beaucoup plus de temps. Ici, on voit qu'on a 150 millions d'années, 50 millions d'années dans ces proto-étoiles. Ici, on va rester le Soleil 10 milliards d'années sur la séquence principale. Et puis ici, pour les très massives, tout se passe très vite. Le temps dynamique de chute va être beaucoup plus court. Et par exemple, les plus grandes masses vont très vite en 60 000 ans. Alors ces chemins ont été calculés par Hayashi, on appelle les chemins de Hayashi, dans ce diagramme HR. Il a montré que tout ce qui est au-delà de cette ligne pointillée jaune ne peut pas exister, il n'y a rien de stable. Donc ça commence ici, donc on a les 10 puissance 4 et 10 puissance n, ce sont les nombres d'années. Donc on a ici 1 million d'années, 100 millions d'années, etc. Vous voyez comme tout se passe très vite là-haut. Et puis on a ici les masses, et on appelle ça séquence principale dans le trajet de toutes ces étoiles. Donc si on regarde maintenant les étoiles que l'on voit aujourd'hui, elles vont se trouver donc sur cette séquence principale qui a une certaine forme. Et puis ici, on voit que certaines, en fin de vie, lorsqu'elles sortent de cette séquence principale, elles vont rejoindre ce qu'on appelle la branche des géantes. Et on a un petit peu un défaut de géantes jaunes, et puis on va avoir des géantes rouges, rouge parce qu'elles sont en couleur vers la droite, et on a ce qu'on appelle un grumeau rouge, red clump en anglais, un grumeau des géantes rouges. Ce grumeau des géantes rouges est très utile car on connaît bien la luminosité de ces étoiles, et ça nous permet, lorsqu'on le détecte dans une galaxie ou une autre, d'avoir la distance, de savoir exactement à quoi on a affaire. Donc c'est un très bon indicateur de distance. Donc on va essayer de déterminer le destin des étoiles selon leur masse. Alors ici, on a fait ces dernières années, grâce au satellite Gaïa, qui est un satellite européen qui a été lancé il y a quelques années, pour faire l'astrométrie de toutes les étoiles, de milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Et donc on a leur distance très proche et aussi leur mouvement propre, parce qu'on a regardé les étoiles à plusieurs intervalles de temps. Donc on connaît leur dynamique et aussi leur distance. Donc on a une précision extrême dans ces diagrammes de HR. Alors ici, on a la couleur en certains bleus et certains rouges, et puis la luminosité ou la magnitude, mais la luminosité croît vers le haut. Et vous voyez qu'on peut délimiter la distance autour du Soleil, 25 parsecs, 50 parsecs ou 100 parsecs. On en a beaucoup plus, évidemment. Et donc, on a pour la première fois permis de distinguer des éléments très fins. Par exemple, ici, on a un découplage, une bifurcation dans les naines blanches, ici, entre les naines blanches carbonées ou oxygénées, etc., ou contenant plus d'hélium ou plus d'hydrogène. Et ici, ce que vous voyez en vert, c'est assez intéressant, ce sont les binaires. En fait, on s'intéresse à des étoiles qui, en général, on fait comme si elles étaient toutes seules. Mais la moitié des étoiles est en couple. Et donc, c'est sûr que si on a une couleur donnée, on n'arrive pas à les résoudre, on a la même couleur, à ce moment-là, on aura deux fois plus de luminosité. Donc on s'attend à trouver, même si le trait bleu est pour une seule étoile, le trait vert serait pour deux étoiles, une étoile en couple, donc même couleur, et ça correspond à un écart de magnitude de 0,75, donc c'est ce qu'on voit là. Pourquoi la séquence principale est un peu plus épaisse, c'est grâce à ça. Alors vous voyez qu'on sélectionne en fait les étoiles, parce qu'on en a des milliards ici, on en a 65 millions, donc déjà, on ne verrait plus rien si on mettait toutes ces étoiles. Ici, la couleur que vous voyez est en racine carrée de nombre d'étoiles que l'on voit. Et au bord, on les met individuellement. Et ce qu'on permet de faire aussi, Gaïa, c'est d'avoir d'isoler des amas d'étoiles. Alors par exemple, ici, un amas jeune, un amas ouvert. Alors, il y a 32 amas ouverts qu'on a détectés dans ce papier-là, Babuzio et al. Ici, vous avez la séquence principale, ici vous avez l'âge. Et ce que vous voyez ici, c'est un démarrage de certaines étoiles lorsqu'elles ont atteint leur fin de vie, et on voit qu'elles arrivent en géante rouge avec un certain bifurcation. Là, il y a énormément de détails. Et ce qu'on voit, c'est que la maille est tellement jeune que les étoiles massives qui sont OB, très chaudes, sont toujours là. Par contre, si on prend un amas globulaire, alors c'est un amas globulaire qui est assez âgé, dans la Voie lactée, ils sont assez âgés. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont formés d'un seul coup, donc ils ont à peu près toutes les étoiles ont le même âge. Et là, on arrive à savoir, avec le point à laquelle la séquence principale est quittée ici, c'est l'âge de l'amas globulaire. Ici, on voit que toutes les étoiles plus chaudes sont parties, puisqu'elles n'ont de durée de vie que quelques 10, 20 millions d'années. Et l'amas globulaire est bien plus vieux, donc on n'a que ces étoiles-là, plus ce qu'on appelle un turn-off, c'était un point de rebroussement ici. Et puis, on le voit en fonction de la métallicité. Ici, la couleur, c'est la métallicité. On arrive à distinguer les étoiles selon leur métallicité. Le gradient de métallicité est net. Alors, il y a aussi, on peut comparer, par exemple, les deux diagrammes HR d'un amas globulaire en rose qui a un certain âge et puis un amas ouvert. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on voit bien peut-être les binaires ici. Ça s'élargit en binaire. Et on voit aussi un phénomène que l'on connaît dans ces amas globulaires, c'est qu'il y a des étoiles qui dépassent le turn-off alors qu'elles ne devraient pas, puisqu'elles sont toutes au même âge. Alors pourquoi? On les appelle blue stragglers ou bien traînantes bleues. Enfin, c'est des étoiles qui dépassent. Alors pourquoi? Eh bien, simplement, on sait, enfin, on les a vues, hein, quand on regarde un amas globulaire, ici, elles sont en bleu. Hein, alors pourquoi? C'est qu'on pense que dans un amas globulaire qui est très dense d'étoiles, à ce moment-là, on a des collisions entre étoiles, et donc deux étoiles vont avoir une masse plus grosse lorsqu'on aura une collision d'étoiles, elles vont fusionner. Donc elles seront un petit peu rajeunies en quelque sorte, en tout cas elles seront plus bleues et plus massives, et donc elles vont au-delà de l'âge attendu de cet amas globulaire. Donc ici, on a bien toutes ces traînards de bleu qui sont ici. Alors on le voit ici, hein, par exemple dans cet amas globulaire ici, et c'est un très riche en fusion. Alors, il y a pas seulement les étoiles que l'on voit avec Gaïa, il y a aussi les naines brunes. Ce qu'on appelle naines brunes, c'est quelque chose qui n'a pas assez de masse pour déclencher les réactions nucléaires à l'intérieur. Donc, ça, par la gravité, la température atteinte au centre n'est pas assez forte. Donc, on pense qu'on a des étoiles à partir de 0,08 masse solaire. Mais tout ce qui est entre 0,01 et 0,08, ce sont des naines brunes, qui se retrouvent ici quand même. Elles ont quand même effondré leurs nuages de gaz, elles sont devenues pratiquement sphériques. Alors Jupiter est une étoile manquée justement dans le système solaire, et elle est encore en train de se concentrer, donc avoir une certaine luminosité propre, bien que la plupart de sa luminosité vienne de la réflexion du Soleil. Mais on voit que ces naines, alors on avait dit que ça se terminait en M, la classification, vous avez LT qui sont les naines là ici, et il y en a 443 en vert, quelques-unes en rouge, on voit qu'elles suivent en fait cette séquence principale, on arrive à les détecter assez bien. Alors ici, vous avez une forme différente parce que vous avez des magnitudes qui sont infrarouges, J-K et MK. Alors, on voit aussi les nébuleuses planétaires. On va un petit peu détailler plus tard ce que est une nébuleuse planétaire. Pourquoi le nom nébuleuse planétaire? C'était une erreur. Les astronomes, quand ils ont vu ce genre d'objet, ils se sont dit, tiens, autour d'une étoile centrale, vous avez un disque dans lequel vont se former des planètes. Pas du tout, du tout. Donc le nom est resté, mais ce n'est pas du tout des planètes. Donc c'est un contresens. Ici, ce qu'on a, c'est une naine blanche au centre, un peu ce que va devenir le Soleil en fin de vie. Donc le centre va se concentrer, l'enveloppe va être éjectée par des instabilités que l'on va décrire. Et donc, c'est l'enveloppe de l'étoile de masse assez faible qui forme ces couleurs, donc du gaz, en fait. Donc, que se passe-t-il, en fait, lorsqu'on a ce genre d'étoile de masse intermédiaire, par ici, qui va, à la fin de la fusion d'hydrogène, monter vers les géantes rouges, ou aussi la branche des asymptotiques des géantes, ici? Eh bien, peu à peu, elle va éjecter du gaz, et elle va devenir nébuleuse planétaire. Vous voyez que c'est assez, une période assez courte, donc on n'en voit pas beaucoup, puisque finalement le nombre d'étoiles que vous voyez là est proportionnel à la durée de vie dans cette étape-là. Donc ça, c'est très rapide. Et ensuite, on les voit arriver en naine blanche ici. On voit très bien, là, ça c'est un détail de ce diagramme à chair, on voit très bien le grumeau rouge, là, qui est très intéressant au point de vue des distances. Alors, dans Gaïa, on a vu qu'il y avait énormément de précision, en effet, et c'est là qu'on voit la bifurcation des naines blanches. C'est la première fois qu'on a vu avec Gaïa cette déformation. En fait, on en a des naines blanches qui ont une surface en hydrogène pur et d'autres en hélium. Et donc, on arrive à les distinguer ici. Il y a aussi, on voit par cette grande précision des observations que les modèles marchent très très bien. En fait, en tout cas, les modèles se sont adaptés aux observations de façon très précise. Vous voyez un petit peu le modèle ici, c'est une isochrone en rouge. Alors, il y a des modèles, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont faits en Italie, le programme Parsec, et puis à Genève. Et on voit que, alors ici c'est moins bien, mais pas simplement parce que on a des étoiles plus faibles, c'est les étoiles de très faible masse, et là c'est les observations Gaïa qui sont plus incertaines, parce que les étoiles sont plus faibles. Mais dès que vous avez des étoiles assez brillantes, on voit que c'est très bien reproduit par tous ces âges d'étoiles. Et alors il y a aussi d'autres éléments qui vont faire varier un petit peu, c'est, on va le voir, la rotation des étoiles, et puis le champ magnétique, etc. Et on va pouvoir rentrer dans la physique grâce à ces diagrammes à chair très précis. Alors justement, la structure interne, j'ai remis un petit peu tout ce qu'on sait du Soleil par tous les satellites qui ont vu, par exemple en UV, on voit ici le satellite SDO, c'est-à-dire Solar Dynamic Orbiter, qui pendant plusieurs années a disons, continuer de photographier le Soleil, et vous voyez qu'il y a tellement de choses de vent solaire qui s'en va qu'il y avait aussi une utilité au point de vue météo de l'espace, car tous ces rayons cosmiques vont arriver sur la Terre. C'est très intéressant de prédire un petit peu ces événements sur Terre. Alors voici un petit peu ce qu'on peut représenter pour une étoile comme le Soleil. Vous avez un cœur où l'hydrogène est transformé en hélium ici. Et puis, il y a une zone radiative où le rayonnement s'en va de façon uniquement sans que la matière bouge. Et vous avez une tachocline qui sépare la zone radiative et convective. Et ici, le gradient de température est tellement fort qu'on a intérêt à, un peu comme lorsque l'eau bout, il y a des réunions de convection, et vous avez de la convection, on va le voir. Il faut dire aussi que les photons ici sont piégés par diffusion sur le plasma. Ce sont des ions qui diffusent dans tous sens. Et cette diffusion est très importante, puisque au lieu d'un photon libre, on mettrait 2 secondes à sortir, puisque le rayon du Soleil, c'est 700 000 km, c'est 2 secondes lumière. Eh bien, un photon met 200 000 ans à sortir en moyenne. Donc, c'est vraiment énorme. Alors, ces paramètres de la physique interne, on peut les relier. Hein. On a la luminosité, le rayon. Là, on va supposer que les étoiles sont sphériques. En effet, pour le Soleil, là, est un peu aplati, mais de l'ordre d'un 1/10 millième ou 1/100 millième. Donc, on peut vraiment prendre l'hypothèse que c'est sphérique. Donc, vous avez la luminosité qui est proportionnelle à la surface, 4π/r² de l'étoile. Et puis, le rayonnement avec une température de surface, donc en T4, comme le corps noir, et la sigma, la constante de Stefan. Alors, ce que vous voyez ici, puisqu'on a la température qui croît vers la gauche, hein, les plus chaudes sont ici, la luminosité ici, vous voyez que pour T, la loi étant LT4, comme c'est du log-log, ça va être une droite, donc ce sont ces droites-là, pour un rayon donné. Donc, on voit bien qu'ici, on a un rayon qui est 1/1000ème du rayon solaire. Ici, on a les naines blanches, hein, c'est pour ça qu'elles sont naines, ici. Et puis, le rayon solaire est ici, puis 10 fois le rayon solaire, 100 fois et 1000 fois. Donc, on a des géantes rouges, comme Bételgeuse, qui ont 1000 fois le rayon du Soleil. Vous voyez un petit peu la gamme entre 1/1000ème et 1000 fois le rayon du Soleil, qui sont la gamme des étoiles. Alors, comment on peut mesurer ces rayons? Évidemment, c'est très difficile, puisque si vous éloignez le Soleil et que vous le mettez à 10 parsecs, c'est-à-dire 30 années-lumière, eh bien, vous aurez 1/1000ème de seconde d'arc. ce qui est peut-être possible par des interféromètres optiques. Mais lorsque vous avez Betelgeuse, alors là, par contre, c'est plus facile. On peut le faire avec l'optique gravitative, par exemple, avec Sphère sur le VLT de l'ESO. On a pu faire des images de Betelgeuse, notamment en 2019-2020, il y a eu un assombrissement de Betelgeuse. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Peut-être qu'on s'attend d'ailleurs, vu qu'elle est en géante rouge, que cette étoile massive explose en supernovae. Ce serait très intéressant de le voir, mais enfin, ça n'a pas été le cas. En fait, Betelgeuse a éjecté quelque chose qui a fait ombre sur la surface. Donc, tout d'un coup, on a vu une ombre passer, mais en fait, elle a repris sa luminosité d'avant. Donc ici, on a le rayon de l'étoile, on a la température de surface, et on essaie d'avoir ces courbes. On va voir qu'on a la séquence principale et puis des courbes qu'on va détailler maintenant. Quelle est l'histoire lorsque l'étoile a fini de brûler son hydrogène? Elle va se retrouver sur ces courbes et en fonction de sa masse, métallicité et puis son opacité, etc. Et on va calibrer ces courbes avec les observations. Ici, on a des amas ouverts où on a des étoiles jeunes qui se trouvent en bleu ici. Ou des amas ouverts, le plus vieux c'est M67, c'est ouvert, ça veut dire que ce n'est pas un amas globulaire, il va se délier gravitationnellement, et on voit qu'il s'arrête ici, c'est-à-dire que toutes les étoiles jeunes sont parties, et on n'a plus que cet âge-là. Alors ces équations, je ne vais pas en dire beaucoup, il y a évidemment la pression, le gradient de pression qui compense la gravité, c'est pour ça que l'étoile est en équilibre pendant 10 milliards d'années pour le Soleil. Donc on a cette équation-là, on a aussi la conservation de la masse, évidemment. Alors, des ordres de grandeur, déjà, ça, c'est assez intéressant. On pourrait dire, bon, le Soleil brûle 4 millions de tonnes par seconde en rayonnant. Est-ce qu'à la fin de sa vie, on verra une diminution de la masse? Eh bien, vous pouvez calculer, la luminosité solaire, c'est en watts, c'est-à-dire en joules par seconde, 4 10 puissance 26, et vous le multipliez par le nombre de secondes en 10 milliards d'années, bon, ça se fait, et on s'aperçoit qu'on a perdu qu'un millième de masse solaire à la fin de 10 milliards d'années. Vous voyez que c'est complètement négligeable, donc le Soleil n'aura pas perdu tellement de masse à la fin de sa vie. Alors vous allez me dire, oui, mais il éjecte plein de choses. Eh bien, pas tellement. En fait, le vent solaire, avec toutes ses éjections, ça ne fait qu'un million de tonnes par seconde, par rapport aux 4 millions de tonnes que je viens de calculer là et qui étaient négligeables. Donc vous voyez qu'à la fin de sa vie, on aura toujours un Soleil à peu près à la même masse que le Soleil. Le transport de l'énergie. Alors j'ai dit que le transport se faisait radiativement ici et puis convectivement. Alors vous voyez que le Soleil tourne. Ici c'est la vitesse angulaire de rotation ici, et on voit qu'elle est constante. Il tourne comme un corps solide dans cette première phase. Hein, le rayon de Soleil varie comme cela. Vous avez la tachocline qui sépare les deux, et puis vous voyez que ensuite le Soleil tourne beaucoup plus vite à l'équateur. À zéro latitude, hein, beaucoup plus vite à l'équateur qu'au pôle. Donc on a une rotation différentielle. C'est ça qui va créer le champ magnétique qui va se tordre, etc. Et puis les convections, vous le voyez dans ce petit film, ce sont le plasma qui monte et qui est brillant. Et puis lorsqu'il descend, il est plus froid. Donc il redescend, il est plus noir. En fait, il est toujours assez chaud, mais il se voit en noir parce qu'il est plus froid. Et donc ces zones convectives, ça fait 1000 km. Donc c'est assez grand. Alors on va montrer que justement, c'est lorsque le gradient de température est plus fort qu'une certaine valeur qu'on va avoir cette convection. Alors voici comment on peut le montrer. Enfin, je vais juste vous donner l'intuition. Je ne veux pas refaire tous les calculs, mais je vais donner l'intuition. Pourquoi tout d'un coup on passe à la convection? Eh bien, on s'imagine, par exemple, ici on a le gradient la pesanteur ici, le centre de l'étoile est ici. Donc on va faire monter une petite bulle de gaz, de plasma, lorsqu'on est à pression P et densité ρ, on va le faire monter ici avec où on sait que la pression est P moins delta P, il y a moins de pression, moins de densité. Alors on va supposer que la montée est adiabatique, c'est-à-dire qu'elle est très lente et on ne va pas échanger d'énergie, donc on va appliquer la loi d'adiabaticité. On se souvient de PV gamma égale constante, où P étant rho gamma. Gamma est l'indice de adiabatique. Et donc, on va essayer de trouver si on calcule cette densité rho moins delta rho, que l'on a par cette relation-là. Et si cette densité est plus faible que la densité qui existe à ce moment-là, ça veut dire que c'est instable. On a la pression d'Archimède qui va le faire monter. Si cette densité est plus forte que la densité locale, à ce moment-là, le gaz va redescendre et ce n'est pas instable. Donc vous voyez, c'est cette loi-là qui va nous dire que si le gradient de température est plus fort que le gradient prévu par la loi d'adiabatique, à ce moment-là, un fort gradient de température, vous allez avoir convection. Alors ce modèle du Soleil, il est très très connu, et même il était très connu dans les années 70-80, mais il y a eu un gros problème, c'est que dans la relation PP qui transforme donc d'abord l'hydrogène en deutérium, puis ensuite en hélium, on émet des neutrinos électroniques. Et à la même période, il y avait des détecteurs de neutrinos, vous savez, qui étaient basés sur des tonnes d'eau qui auraient dû piéger ces neutrinos. Et par l'effet Cherenkov, on devrait avoir de la lumière qui était censée être détectée par ces cellules photoélectriques. Et donc, à l'époque, on a fait la mesure et on a détecté que le tiers de neutrinos prévu par les modèles du Soleil. Donc ça, c'était une surprise. Et on s'est dit, ça ne va pas, le modèle du Soleil n'est pas bon, il faut refaire tous les calculs. Et en fait, les calculs ont été refaits, reprécisés, et c'était toujours, on détectait toujours que le tiers. Et en fait, la solution est venue quelques dizaines d'années après, car on a découvert que les neutrinos, il y en a trois sortes de neutrinos, neutrinos électriques, neutrinos associés au muon et neutrinos associés au tau, il y a trois particules. Et donc, on pensait qu'ils ne s'échangeaient pas, parce que dans le modèle standard, le neutrino n'a pas de masse. Ils ne peuvent pas s'échanger entre les trois flaveurs. Or, ils s'échangent. Donc, ce qui veut dire que finalement, les neutrinos ont une masse. Elle est très petite, on ne peut pas la mesurer, mais ils ont une masse. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la physique du Soleil a permis de trouver quelque chose qui a une très importante, qui était vraiment très important pour la cosmologie. Car si vous avez une masse dans les neutrinos, peut-être que la matière noire que l'on cherche depuis longtemps, enfin à cette époque-là, les neutrinos pouvaient très bien faire une grande partie de la matière noire. On sait aujourd'hui qu'on a contraint la masse des neutrinos à quelques électronvolts, elle existe, mais elle n'est pas suffisante pour faire toute la matière noire. Mais vous voyez qu'il y a un lien entre la physique à l'intérieur du Soleil et puis la cosmologie. Donc finalement, les personnes Kajita et McDonald ont eu le prix Nobel pour montrer qu'il y avait des oscillations entre les neutrinos électroniques, muoniques et les deux autres. Donc entre le Soleil et nous, les électrons, les neutrinos, eux, s'échangeaient entre d'autres périodes. C'est pour ça qu'on n'en avait plus que le tiers. Alors, je repars sur la physique des étoiles. Alors, on a dit à plusieurs reprises que l'efficacité de transformation d'hélium, d'hydrogène en hélium était beaucoup plus efficace pour les grosses masses parce qu'elles avaient des températures plus grandes et donc l'efficacité des réactions nucléaires. Alors, ce qu'on mesure, c'est cette loi, luminosité en fonction de la masse. Vous voyez qu'elle est une fonction, une loi de puissance en fonction de la masse assez élevée. C'est plutôt de l'ordre de 4. La luminosité est la quatrième puissance de la masse. Donc c'est pour ça que lorsque une étoile d'étoile O, par exemple, elle va épuiser son combustible en très peu de temps. Donc peut-être 10 millions d'années, elle n'aura plus de combustible. Alors pourquoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette fois-ci, on a des étoiles qui sont sur cette loi-là, avec 100 millions de degrés au centre. Et donc, on a cette efficacité qui est des ordres de grandeur de plus. Donc, on peut avoir, par exemple, une étoile O de 120 masses solaires, 5000 ans de durée de vie. Ou, pour 10 masses solaires, bon, ça c'est plus rare, 10 masses solaires, c'est quand même plus fréquent, on a 10 millions d'années. Ici, on va voir que lorsqu'on est en naine blanche, on va peut-être pouvoir aller là-dessus. Donc, pour l'évolution des naines de faible masse, donc on va avoir, dès qu'on quitte la séquence principale avec cette masse-là, on va avoir des courbes que l'on va détailler ici en fonction de la rotation et de plein de détails. Alors, que va-t-il se passer? On est sur la séquence principale ici. Et puis, tout d'un coup, le centre est devenu un cœur d'hydrogène. Enfin, l'hydrogène s'est transformé complètement en hélium. On a un cœur inerte d'hélium. Et on va brûler l'hydrogène en couches, dans des petites coquilles, comme ça. Bon, l'enveloppe ne participe pas. On a une coquille d'hydrogène. Et donc, finalement, l'étoile va se retrouver à avoir une température un peu plus chaude et puis surtout une luminosité plus grande. Donc on va s'élever sur la branche des géantes rouges ici. Jusqu'à quel point ? Eh bien, on va avoir une certaine plusieurs effets. On a premièrement le cœur d'hydrogène, d'hélium qui se concentre, il va devenir dégénéré. Donc ça veut dire que ce n'est plus la pression ordinaire qui compense la gravité, mais la pression de Pauli, la pression mécanique quantique de Pauli, qui nous dit que des particules identiques, surtout des fermions, ne peuvent pas être dans le même état. Donc on a une résistance à la compression. À ce moment-là, l'hélium voudrait bien, qui se chauffe, voudrait bien s'étendre, mais ce n'est pas vrai, puisque vous avez une pression quantique. Donc à ce moment-là, l'hélium se réchauffe et on a une température qui peut atteindre le triple alpha, et on va brûler l'hélium. On appelle ça le flash de l'hélium, c'est-à-dire tout d'un coup, l'hélium se met à brûler alors qu'il était inerte jusqu'à présent. Donc on arrive à la fin de cette branche et ensuite on repart vers quelque chose qui est plus chaud et qui va peut-être se recondenser. Donc c'est ça la première évolution. Alors cette relation réaction nucléaire qui se produit, hein, c'est d'abord deux héliums qui deviennent beryllium. Ça c'est une étape très très rapide. Et en fait on attend un troisième, c'est pour ça qu'on dit trois alpha. Hein. Alpha c'est l'atome d'hélium, on en a trois. Et qui vont ensuite donner un carbone et puis ensuite plus tard un oxygène. Donc on va commencer à brûler l'hélium pour devenir du carbone et puis de l'oxygène. Donc ça c'est une étape juste après l'hélium flash de la géante rouge. Alors ça, c'est des réactions très rapides qui vont et viennent et qui vont donner des variabilités, des très grandes variabilités et des pulsations. Et c'est là qu'on retrouve les céphéides qu'avait trouvé Henrietta Leavitt. On a tout d'un coup une enveloppe qui gonfle et qui donne un peu plus de luminosité, puis ensuite ça va se contracter, puis se redilater, ainsi de suite. Donc on a des, alors selon la masse, on a des périodicités de 40 jours, comme les RR Lyrae. Alors ce nom d'RR Lyrae, c'est le nom de l'étoile qui la première a été vue avec ce genre de variation, ou alors de quelques jours, encore plus rapide pour les céphéides. Donc vous voyez que ça dépend beaucoup de l'opacité, donc est-ce que ça rayonne plus ou moins, de l'ionisation d'hélium en hélium de plus, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais on a plusieurs étapes qui se compensent, puis qui ne se compensent plus, etc. Et donc ces oscillations. On a aussi, enfin, ici, lorsqu'on est arrivé là, sur ces oscillations un petit peu, qui sont assez rapides hein, par rapport au temps passé, qui est 10 milliards d'années ici, là c'est un petit peu rapide, on a quoi ? Bien, on a un cœur de carbone cette fois, et on a l'hélium qui se brûle en une coquille, et puis l'hydrogène en une autre coquille un peu plus grosse. Ces deux coquilles, là, vont peut-être se mélanger, vont être assez instables, et ces instabilités vont conduire à l'éjection d'une enveloppe. Et c'est là qu'on a ces fameuses nébuleuses planétaires. Alors ici, on en a une, hein. Vous voyez qu'il y a des éjections. Il y a une première éjection, et puis ensuite une deuxième qui va plus vite que la première qui s'est ralentie, donc on a un choc entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de... on a l'impression d'avoir plusieurs coquilles. Et en fait, c'est ça, on a une coquille qui va plus vite et ensuite qui rencontre la première, ainsi de suite. Alors ça, c'est une nébuleuse planétaire avec une seule naine blanche au centre, parce qu'on a quelque chose qui est à peu près asymétrie sphérique. On voit ici à quoi ça correspond, hein, c'est le cœur de carbone-oxygène, puis ensuite on brûle en coquille l'hélium, puis l'hydrogène. Et parfois, ça donne de très très jolis objets. Pourquoi ? Parce que parfois la naine blanche n'est pas toute seule, elle est en binaire. Donc à ce moment-là, on a un axe privilégié de rotation entre les deux binaires. Donc on a quelque chose qui est à symétrie axiale. Alors ces couleurs sont dues à... le vert, c'est l'oxygène, la raie de l'oxygène ionisé, O3. Vous avez en rouge les raies de Balmer, par exemple H-alpha. Vous avez un grand nombre de jolies couleurs et puis des formes qui parfois ont des formes de sablier, etc. Alors tout ça, c'est dû à l'environnement de la naine blanche qui n'est pas isolée. Et comme par exemple ici, elle serait plutôt isolée ou elle rencontre des milieux interstellaires. Donc ça, c'était pour les étoiles de petite masse. Que se passe-t-il pour le Soleil, par exemple ? Que se passe-t-il pour les étoiles de masse intermédiaire ? Eh bien, on va avoir quelque chose d'un petit peu semblable. On va avoir, dès qu'on a fini de brûler l'hydrogène, on va partir sur les géantes, mais ça n'a pas tout à fait la même forme. On va partir plus vite. On va avoir aussi des flashs d'hélium, des crochets à gauche et à droite. Voici par exemple un hélium flash qui est, au lieu d'être vertical, cette fois-ci est horizontal. Et puis, on a donc cette branche de géante. On va aller un petit peu plus loin que le carbone et l'oxygène. On voit un petit peu la structure de l'étoile. On peut aller maintenant jusqu'au néon, magnésium. Et puis on brûle cette fois-ci le carbone en coquille, ainsi de suite. Et puis ça, c'est pour 4 masses solaires jusqu'à 8 masses solaires. Donc on a tous ces chemins ici. Et enfin, les étoiles massives. Donc au-delà de 8 masses solaires, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus avoir de naine blanche, le cœur. Alors cette fois-ci, on a un cœur plutôt qui va jusqu'au fer. Donc on a une température qui permet les réactions nucléaires d'aller plus loin. Donc on a un cœur de fer. Ce cœur de fer va se concentrer, mais il est plus massif que la limite de Chandrasekhar pour une naine blanche qui est 1,4 masse solaire ou 2 masses solaires selon l'opacité, etc. Et donc, ce qui va se passer, c'est que sans doute, on va aller à un stade beaucoup plus compressé et qui est l'étoile à neutrons. Alors ici, on a une supergéante bleue. Parfois, on peut avoir des boucles, on a vu dans ce diagramme des géantes rouges, et on a des supernovae qui d'abord sont des géantes bleues, puis qui redeviennent des géantes rouges, un peu comme Bételgeuse, et qui ensuite explosent. Alors, ce qui se passe, c'est que le cœur va se contracter en une étoile à neutrons. On a cette fois-ci la pression de Pauli où les neutrons sont dégénérés, et puis l'enveloppe va être expulsée par cette énergie de la contraction, et on va avoir une nébuleuse, un petit peu comme la nébuleuse du crabe, qui a été observée donc en 1054 par les Chinois. Pour l'instant, ils ont vu la supernovae qui était au centre. Puis peu à peu, cette nébuleuse s'est agrandie. Aujourd'hui, on peut encore mesurer le mouvement, la vitesse de ce gaz qui continue à s'expandre. Et puis, évidemment, il y a une certaine limite à cette masse des étoiles à neutrons, et on verra que si on dépasse 3 masses solaires, à ce moment-là, on aura un trou noir. Ça, ce sera pour les exposés suivants. Donc, je voulais montrer un petit peu tous les progrès qui ont été faits dans ces isochrones. Vous voyez ici, en fonction de la métallicité, toutes les courbes de différentes couleurs, c'est pour différentes métallicités. Ici, c'est des courbes théoriques, donc température et luminosité. Les théoriciens parlent en phénomène physique, et puis ça c'est observateur, c'est la même chose, mais lorsqu'on l'observe avec les magnitudes de Gaïa, les couleurs magnitudes, par rapport à température et luminosité. Si vous envoyez des diagrammes HR dans ces deux unités, vous voyez que c'est un petit peu différent. Et puis, en fonction de la rotation, là aussi ça varie un petit peu, vous avez oméga, qui est le paramètre sans dimension de la rotation. Oméga, c'est la rotation angulaire, et on le divise par la rotation critique qui pourrait détruire par la force centrifuge l'étoile, donc ça ne pourra jamais être supérieur à 1, c'est quelque chose qui dépend de la masse de l'étoile. Et vous voyez que si vous avez une rotation, évidemment il y a un axe privilégié de rotation, donc ça dépend un peu comme vous l'observez, si vous l'observez à 0 degré ou à 90 degrés, donc ça dépend un tout petit peu, c'est presque pareil, mais on voit bien que ici ça tombe un peu plus, enfin il y a vraiment des petits détails. Et on arrive donc avec la précision de Gaïa et la précision des modèles à apprendre beaucoup plus de choses sur les étoiles. Donc par exemple, sur cet amas ouvert, on a des courbes en fonction de la rotation et on voit qu'il y a certaines étoiles qui tournent et d'autres qui ne tournent pas, ou d'autres qui sont plus ou moins magnétiques. Donc ça nous permet de faire des progrès dans cette physique des étoiles. Ici, vous avez l'exemple d'un amas globulaire avec tous ces détails de rotation ou pas. Alors, je voulais terminer en parlant de l'exploitation en fait, de ces diagrammes HR avec Gaïa. Par exemple, sur l'âge des amas d'étoiles, il est arrivé un moment où la cosmologie n'avait pas vraiment l'âge de l'univers très précisément, et on avait la physique des étoiles donnait un âge qui était plus vieux que l'âge de l'univers prédit par les cosmologues. Donc ça, ce n'est plus vrai maintenant grâce au satellite Planck. On a un âge très précis par la cosmologie. Et par contre, on peut avoir l'âge des étoiles. Alors, il n'y a aucune incompatibilité maintenant. On a par exemple un de ces plus vieux amas dont l'âge était déterminé par ce diagramme à chair avec une précision qui est quand même inférieure à celle que l'on a avec le satellite Planck. En fait, en tout cas, ce n'est plus incompatible. Hein, voici comment l'âge a été déterminé en regardant une distribution de Voronoi là, dans tout l'espace de diagramme à chair et en regardant un petit peu les possibles distances, etc. Alors, pour distinguer un petit peu dans la galaxie les étoiles qui viennent de notre Voie lactée et les étoiles qui viennent d'autres satellites qui ont fusionné, ce diagramme à chair est très intéressant. Comme vous voyez, grâce à Gaïa, on a déterminé qu'il y avait des étoiles qui provenaient d'un compagnon qui a fusionné avec la Voie lactée il y a 8 milliards d'années. Alors, on l'a appelé parfois saucisson, sausage, ou bien Encelade. De la mythologie de Gaïa et Encelade est bien connue. Donc on l'appelle GSE, pour faire simple. Et vous voyez que dans le diagramme du moment angulaire, c'est-à-dire cinématique, la vitesse, ces étoiles de GSE, là, de Gaïa et Encelade, sont très différentes de la Voie lactée, mais aussi dans le diagramme où il y a l'abondance des éléments, le magnésium par exemple, l'aluminium, etc., on voit que ces étoiles sont très différentes. Et on le voit aussi ici, hein, c'est encore plus visible. Pourquoi le nom de saucisson a été donné, c'est que vous avez une vitesse radiale et une vitesse de rotation. On voit que la Voie lactée, c'est le point rouge, là, toutes les étoiles de la Voie lactée sont là, c'est-à-dire qu'elles ont une vitesse de rotation dans un disque autour du centre de la Voie lactée. Par contre, les étoiles de Gaïa Encelade arrivent de façon radiale, donc on n'a pas de vitesse de rotation, et on a une grande vitesse radiale, c'est ça le sausage en fait. Et puis on a l'abondance aussi qui est différente. Donc vous voyez que tous ces diagrammes HR d'étoiles individuelles nous amènent à savoir quelle est l'histoire en fait de fusion de la Voie lactée. On a pu, d'ailleurs, il y en a plusieurs hein, des amas d'étoiles qui ne proviennent pas de la Voie lactée, par exemple Sequoia, et on a pu distinguer les étoiles de Sequoia et les étoiles de Gaïa-Encelade, donc séparer un peu les divers satellites qui ont fusionné avec la Voie lactée, c'est assez possible. Et par exemple, on a pas mal d'amas globulaires dans la Voie lactée, on se demande si ça vient de la formation de la Voie lactée au début, ou bien si ces amas globulaires ont été apportés par les satellites. En effet, il y en a un grand nombre, ça c'est trois amas globulaires qui correspondent à Gaïa-Encelade et qui n'ont pas du tout la même abondance ou le même âge, etc., la même magnitude. Donc ça, c'est trois amas qu'on a pu déterminer être amas de Gaïa-Encelade. Donc voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Donc j'espère que vous avez bien vu comment on classifie les étoiles dans ce diagramme à chair, comment Gaïa a pu nous préciser quelle était la bifurcation des naines blanches ici, les binaires ici, comment la physique interne, l'atmosphère des étoiles est maintenant bien connue, surtout pour le Soleil, pour les étoiles de masse plus faible. Et pour les étoiles de plus grandes, on voit que la rotation et l'opacité jouent beaucoup. Et enfin, l'évolution avec la masse entre les naines blanches et les géantes rouges, on commence à comprendre beaucoup la physique des étoiles. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.